Bonjour, bienvenue, vous êtes sur Direct News Podcast by Michel Robadin. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose une émission enregistrée en novembre 2011 sur l'antenne de Radio Cité Genève dans le cadre d'une chronique que je présentais et qui s'appelait Le Défi. Mike Horn, l'explorateur aventurier toujours en activité, bien présent aujourd'hui du reste sur les chaînes françaises de télévision, était venu nous parler de ses différentes expéditions qui l'ont amené depuis l'âge de 26 ans sur tous les continents et sur des terrains de jeu aussi variés que la jungle, la montagne, la glace ou encore la mer, de l'eau. Il en était beaucoup question du reste à l'époque de cette émission puisqu'il bouclait, on s'en rappelle bien, tranquillement son aventure Pangaea commencée en 2008 et qui devait prendre fin en 2012. Mike nous raconte aussi sa relation avec les ours blancs, également son autre relation avec ses deux filles Annika et Jessica, toutes deux du reste parties aussi à l'aventure avec leur papa explorateur. Et enfin, on va évidemment pas l'oublier, je termine cette courte introduction et ne pas oublier une personne essentielle à sa réussite depuis ses débuts, sa femme Cathy, décédée beaucoup trop tôt en 2015 à l'âge de 51 ans. Première question à Mike Horn, et si cela était à recommencer, referiez-vous la même chose?
C'est sûr que je changerais rien. Et puis, on regrette toujours des choses qu'on n'a pas fait, jamais des choses qu'on a fait. Et puis, la vie a sa manière de t'amener dans une direction que c'est pas toujours toi qui tire en avant. Et puis, des fois, t'as la peine, en fait, de rattraper, en fait, la vie. Et puis, comme un explorateur, si c'est ta passion, et puis si tu veux vraiment faire des choses qui est unique, qui est peut-être des fois un peu fou pour des gens, c'est sûr que tu peux pas toujours aller qu'avec la tête. Tu dois aller avec un cœur. Et puis, si t'as une passion pour faire tout ce que tu fais dans la vie, si c'est de la musique, ou l'art, ou science, ou l'aventure, des fois, tu dois attraper, en fait, ta vie qui part devant toi.
Est-ce que Mike Horn, aujourd'hui, a des regrets, déjà?
Je peux dire oui, parce que j'ai pas commencé plus tôt ma vie comme aventurier. Parce que quand t'as 26 ans, t'as déjà fait une bonne partie de ta vie. Et puis, c'est là où t'as encore beaucoup d'énergie. Mais c'est un regret d'un côté. Mais j'ai vécu des choses en 18 à 26 qui étaient uniques aussi, qui ajoutaient beaucoup à ma vie comme explorateur. Des fois, on dit, mais si seulement j'ai arrivé 2 semaines plus tôt ou 2 semaines plus tard, mais on peut pas vraiment changer la cour de notre vie. Et puis, c'est pour ça, je suis très content et très heureux avec tout ce que j'ai fait de ma vie. Tout simplement parce que je regrette jamais des choses que j'ai pas fait. Comme je disais tout à l'heure, c'est que la vie nous amène dans une direction. Des fois, on suit et puis des fois, on essaie de la rattraper. Et puis, si on la rattrape, c'est là où on accroche et puis c'est là où on trouve du plaisir dans la vie.
Mike Horn, si on regarde très rapidement, hein, on survole un petit peu votre palmarès, en tout cas votre parcours. Vous l'avez dit, début en 91 avec une expédition en parapente, ça se passait au Pérou. Ensuite, en 95, il y a eu de l'hydrospeed. En 97, la descente de l'Amazone, on s'en rappelle bien. De 99 à 2000, latitude de zéro, ça se passait en Équateur. Arctos également, c'était le cercle arctique. Et puis le Grand Nord également en 2005. Il y a eu aussi 2 ascensions de 8000 mètres, c'était en 2007 dans l'Himalaya du reste. Et puis on l'a dit tout à l'heure, l'expédition Pangaea qui a commencé en 2008 pour se terminer en 2012. Aujourd'hui, justement, dans ce palmarès ou dans ce parcours, que vous manque-t-il, Mike Horn? Est-ce qu'il vous manque quelque chose?
Pas vraiment.
Parce que là, il y a de la glace, il y a de la jungle, il y a de tout.
Pendant la dernière 3 ans d'expédition Pangaea, j'ai aussi fait 2 ou 3 petites choses que je voulais continuer de faire comme explorateur. C'est plutôt un partage aujourd'hui avec les jeunes. Et puis c'est ça qui me manquait avant dans toutes mes exploits, parce que j'étais seul. J'ai passé pas mal de temps seul des ententes, et puis des fois je me disais, mais si seulement il y avait quelqu'un avec moi que je pouvais dire, mais regarde comment c'est beau, oh, t'as vu ça? Et puis aujourd'hui, j'ai presque une deuxième vie comme explorateur parce que je le partage à travers des yeux des jeunes qui voient des choses complètement différentes que moi je le vois aujourd'hui. Et puis c'est ça qui est en fait intéressant. En même temps, j'ai dit tant toujours, il y a quelques mois, j'ai arrivé de faire une autre montagne de 8000. J'ai traversé Mongolie à 2000 km. J'ai traversé tous les volcans de Kamchatka. Mais c'est plus comme dans le passé où c'était un exploit que pour traverser. Aujourd'hui, c'est un exploit pour partager. Et puis quand j'étais au Pôle Sud, l'année passée, Pôle Sud retour, c'est quand même 4000 kilomètres. Et puis ça s'était fait très très rarement, un aller-retour au pôle. Mais d'avoir deux jeunes qui sont venus avec moi pour faire les dernières 300 kilomètres, ça donnait un autre sens à l'exploration. C'est sûr que les 3600 kilomètres, je faisais moi toute seule. Mais à la fin, d'arriver avec les jeunes qui apprécient autant que toi. Les jeunes n'ont pas besoin de faire 4000 kilomètres. Moi, j'ai besoin personnellement. Mais pour eux, c'est des moments qu'ils arrivent après 10 kilomètres ou 100 kilomètres. C'est notre passion et notre envie et satisfaction est complètement différente.
Si on devait, par rapport à toutes ces expéditions, toutes ces aventures comme ça, la première histoire que vous avez à raconter, le truc qui vous a le plus marqué, soit dans le bon sens, soit peut-être même dans le mauvais sens, c'est-à-dire peut-être une expédition qui aurait pu mal tourner avec beaucoup de dangers, une certaine frustration. Quelle est l'image comme ça qui vous vient par rapport à tout ce que vous avez fait?
Il y avait tellement de choses. Quand on fait 20 ans d'exploration professionnellement, il y a pas mal de choses. Et puis, moi, je pensais que c'était toujours, en fait, la nature du vent, la mer, des tempêtes, les maladies tropicales qu'on trouve dans l'Amazone qui va m'arrêter ou qui va être mon plus grand problème. En fait, c'était jamais ça. C'était des gens qui étaient mes plus grands problèmes. Et puis, je me rappelle très bien quand j'ai rencontré un narcotrafiquant en traversant Colombie dans la région d'Icaqueta pendant 25 ans. Il y avait personne qui a traversé. Et tout d'un coup, tu te trouves devant quelqu'un qui a le pouvoir d'arrêter tous tes rêves. Et puis ça, c'est les situations que j'aime pas trop. Et puis j'étais là, j'ai essayé d'expliquer que je fais la recherche sur la malaria, et puis j'ai un vaccin, et puis c'est important que je traverse. Et puis les types me regardaient dans les yeux en disant que, écoute, je te crois pas. Et puis là, je voyais très bien...
Ça peut très mal tourner.
À travers ses yeux que maintenant, c'est sérieux. Maintenant, il va pas te laisser passer. Et puis, c'est là où je me disais, mais ça, c'était que la moitié de la vérité. C'était pas complètement faux. Mais la vraie vérité, pourquoi j'étais vraiment là, c'était de suivre l'équateur autour de la planète. Et puis, c'était là où j'ai essayé de l'expliquer. Mais tu sais, moi, j'ai eu un rêve comme un enfant de suivre l'équateur. Et puis, je viens de traverser le Brésil. Et puis, il a dit, mais c'est pas possible. Et quand j'ai sorti, en fait, un papier qui était fait par Paris Match en France, et puis je le montrais, en fait, tout ce que j'ai fait de ma vie, et il a dit, mais écoute, Mike, un homme avec tes courages, j'ai pas le courage de te tuer. Et puis, en fait, il me laissait passer, mais ça pouvait aussi mal tourner. Quand je me retrouvais en Rwanda, en Congo, pendant ces grands génocides, comme on disait, génocide où il y avait 6 millions de gens morts, et puis je me trouvais devant un peloton d'exécution, et puis tuer les types qui étaient avec moi, c'est pas très confortable. Et
on n'est pas plus à l'aise non plus sur la banquise avec des ours blancs.
Et quand tu vois un ours qui arrive, et puis un ours... Il se lève et il se met sur ses pattes arrière, il ouvre sa gueule, il commence à gronder. Tu sais qu'il n'est pas dangereux parce qu'il te donne toutes les indications qu'il est curieux. Mais quand tu vois un ours qui arrive et puis il baisse sa tête, ses oreilles vont en arrière, il ferme la bouche, c'est là où il donne des signes d'attaquer. Mais les hommes est pas du tout comme ça. Les hommes, ils peuvent dire oui, mais à l'intérieur, c'est non. Et puis c'était ça en fait, des problèmes toujours un peu qui n'étaient pas prévus pendant mes expéditions
qui me gênaient. Donc les problèmes venaient plutôt des gens que directement, par exemple, de l'endroit, du terrain, quelques difficultés, disons, dans le terrain, par exemple, on est d'accord.
Exactement, mais je ne veux pas dire que négatif comme l'homme, il y avait aussi beaucoup de positifs. Il y avait des gens qui m'ont aidé quand j'ai eu soif, quand j'ai eu faim. Quand j'ai cassé mon genou, il y avait toujours des gens qui étaient là pour moi aussi. Mais à la fin, tu vois que c'est noir ou blanc.
Vos terrains de prédilection, c'est la jungle, c'est la glace, c'est la mer, c'est la montagne. Où est-ce que Mike Horn se sent quand même le plus à l'aise? Dans quelle situation? Dans toutes? Pas possible.
On peut pas tout faire dans la vie. Et puis, comme je dis toujours, des fois, on dit que tu peux faire que la montagne parce qu'il y a tellement de montagnes à faire, ou tu peux faire que la jungle de la vie parce que de traverser toutes les jungles de la vie, il faut deux vies presque. Et puis après, je me dis, mais je fais rien de bien. Je suis un homme qui touche un peu à tout, mais je cherche une satisfaction à l'intérieur. Et dès que je retrouve cette satisfaction, je change l'aliment. Parce que pour moi, l'inconnu me motive. C'est pas toujours d'y aller dans les mêmes aliments. Et je retrouve les mêmes sensations dans chaque aliment. Parce que tout ce qui est inconnu m'attire. Et puis dès que je connais un peu l'aliment, c'est là où je dis, mais écoute, il faut peut-être changer. Et puis on a toujours le temps de revenir dans la montagne, de revenir dans la jungle, de traverser les océans, de descendre les rivières à la nage. Et puis je préfère presque avoir la sensation de l'inconnu plutôt que d'arriver au sommet d'une montagne.
Mais qu'est-ce qui reste encore d'inconnu, d'après vous? Qu'est-ce que vous ne connaissez pas? Vous avez fait le tour, là.
Il y a encore pas mal de choses sous l'eau. C'est là
vous,
où...
Vous plongez également?
Oui, là, on a commencé. J'ai fait un petit bout de traverser la mer entre Australie et Papouasie, en marchant sous l'eau, avec mon bateau qui me donnait l'air de respirer. Et puis, je vois, en fait, que on connaît très, très, très peu sous l'eau. C'est un aliment qui est là aujourd'hui. Et puis, je pense que peut-être c'est un aliment qui va sauver l'homme. Parce que sur Terre, on est en fait influencé par des vents, par des tempêtes, et puis par des tsunamis et tout ce qu'on dit aujourd'hui et des catastrophes de nos terres. Mais dès qu'on va sous l'eau, c'est là où on est protégé.
Mike Horn, racontez-nous, lorsqu'on est en expédition comme ça au milieu de nulle part, on est qui? On pense à quoi? Vous n'êtes pas le même Mike Horn que vous êtes maintenant ici chez vous, à préciser, à Puyi, tranquillement. Vous êtes quel type de personnage? Vous avez finalement plusieurs personnalités?
Moi, je pense qu'on a en fait, chacun de nous, à l'intérieur, on a une partie de rebelle, en fait, de nous. Et puis si on ne laisse pas sortir de notre partie de rebelle, c'est là où on ne veut jamais faire notre vie complète comme personnage. Et puis, moi, j'ai appris d'avoir beaucoup de patience. J'ai appris aussi de pouvoir partager plus mes expériences avec les autres qu'avant, j'ai pas eu cette patience. Avant, je voulais pas trop partager. Mais fur et à mesure qu'on avance et puis qu'on progresse ou régresse dans la vie, on découvre des autres choses. Moi, je suis toujours l'explorateur qui aime aller seul. Ça, c'est profond à l'intérieur de moi et c'est très, très difficile d'enlever cette partie de l'homme. Mais avec l'âge, naturellement, on change. On est physiquement pas aussi fort qu'avant. Et on fait des choses complètement différentes. Moi, je dis toujours, mon père me disait, mais Mike, tu prends un marteau et puis tu vas enfoncer un clou et puis toi, tu tapes comme un fou avec ta force, mais il faut utiliser les poids des marteaux pour enfoncer les clous. Et aujourd'hui, c'est plutôt les poids des marteaux que je peux utiliser pour enfoncer les clous. Ça veut dire que ça a changé. Et puis, j'ai pas vraiment, honnêtement et sincèrement, envie, après 4 ans et 120 000 milles autour de la planète, j'ai pas vraiment envie de rentrer à la maison. Pas maison avec ma famille, parce que ma famille vient me voir. Mais quand on dit la maison, c'est une structure avec 4 murs, pour moi, ça, c'est pas ma maison.
On est obligé de parler dans vos différentes expéditions de celle qui a été particulière, qui était justement au pôle Nord, avec votre femme et avec vos deux filles. Un mot sur cette expédition un peu différente.
T'as un choix, tu peux amener tes enfants pour faire leurs vacances à Paris, en Disneyland, ou tu peux l'amener sur une plage.
C'est plus surprenant le pôle Nord, quand même.
Ouais, que tu peux le prendre sur une plage avec Club Med, si tu veux. Et ça, c'est aussi super et c'est amusant. Mais de faire quelque chose qui va laisser une trace à l'intérieur du cerveau, des jeunes, pour moi, c'était la seule manière que moi, comme père, qui était vraiment rarement là, pouvait laisser une trace à l'intérieur du cerveau de mes filles en disant que ça, c'est ton papa. Il te donne quelque chose que aucun homme sur Terre peut te donner. Et puis, c'est pas de t'acheter un vélo ou un ordinateur ou une jolie robe. Ça, tout le monde peut faire si on a un peu d'argent, mais de donner quelque chose que tu peux trouver que vers lui. Et puis, c'est ça la connexion entre père et jeune. J'ai été souvent critiqué parce que je suis pas là. Mais tu dois regarder un peu, tu dois t'éloigner un peu, regarder un peu d'où des critiques viennent. C'est peut-être aussi des critiques que des gens critiquent leur vie en travers de quelqu'un comme moi aussi. Et puis, Moi, j'ai des épaules très larges et puis les critiques, ça me gêne pas parce que je suis content, ma famille est heureuse et puis aujourd'hui, ils partagent leur vie avec moi.
L'aventure Panga Maikon qui a commencé en 2008, elle va se terminer l'année prochaine en principe. On est à pile 3 ans puisque vous avez commencé le 18 octobre, donc on n'est pas loin de ces 3 ans jour pour jour. Un premier bilan peut-être de cette expérience, à rappeler que c'est une expérience dans laquelle vous avez justement pris des jeunes ambassadeurs avec vous pour leur montrer un petit peu ce qu'est la Terre et un peu, ma foi, eh bien, tout ce qu'il faut y faire et les dangers justement de ce qui guette les jeunes aujourd'hui. On pense à la pollution, à tout ce qui est énergie renouvelable, ces choses-là.
Aujourd'hui, si je dois dire que je dois laisser la Terre comme il est actuellement à mes enfants, je veux dire, je suis pas fier. Je suis pas fier de laisser la Terre comme il est aujourd'hui actuellement parce que on a consommé, on a abusé, on a fait un énorme impact sur la Terre dans les dernières 20 ans. Aujourd'hui, j'ai vu mon terrain de jeu changer aussi depuis 23 ans en étant dehors. Ça veut dire qu'indirectement, tu dis, mais est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, tu peux faire quelque chose et chacun de nous peut faire quelque chose. Et c'est pour ça que notre expédition Pangaea existe. C'est d'amener en fait les jeunes pour leur montrer qu'il y a encore la beauté sur notre planète, qu'il y a encore quelque chose à protéger, qu'il y a encore quelque chose qu'on peut faire contre l'empreinte humaine en fait sur la nature. Et puis, l'expédition pour moi, c'est plutôt aussi de donner un retour pour la planète. Tout ce que j'ai pris pendant 25 ans d'expérience, de connaissances et d'émotions, j'ai pris de nos terres. Maintenant, j'ai envie de redonner. Et puis de redonner à travers de la conservation, de conserver tout ce qu'on a aujourd'hui. C'est ma manière de redonner. Et puis, je passe 10 heures, je fais 10 000 et 10 000. En 3 ans. Imagine, 3 ans, on a navigué plus que 120 000 milles. C'est 5 fois autour de la planète. Personne n'a vu la planète comme je le vois, moi. Chaque mètre, chaque petit centimètre, si c'est dans la montagne, ou dans les déserts de Gobi, ou sous l'eau en Australie, ou en traversant du pôle nord et du pôle sud. C'est pas seulement de voir notre planète, mais de donner l'espoir aux jeunes. Et ça, c'est Pangaea.
Pangaea va durer, on l'a dit, jusqu'à la fin 2012. Que reste-t-il encore à visiter, à voir pour ces jeunes, le programme?
Là, c'est super intéressant parce que on vient de quitter l'Arctique. On a fait le passage du Nord-Ouest au mois de juillet, qui était super. On a vu des ours polaires, on a vu l'aurore boréale, on a vu pas mal de glace, les baleines qui étaient autour du bateau. Et puis, de partager ça avec les jeunes, c'était extraordinaire. Sur une base qui est solide. Et là, maintenant, on commence de descendre dans la région de l'Amazone, où c'est mon terrain de jeu. C'est là où on va remonter de l'Amazone, et puis je vais amener des jeunes dans les petites pirogues, en suivant les rivières qu'on sait même, qui existent même pas sur les cartes. Indirectement, un projet comme ça, des fois c'est engagé, des fois on doit prendre un risque. Et puis c'est sûr que on a encore deux expéditions à faire. Et jusqu'à aujourd'hui, on a eu beaucoup de chance, pas d'avoir un accident. J'essaie aussi de faire très, très, très attention. Il y a des accidents qui arrivent pas, mais on n'est jamais à l'abri des accidents. Indirectement, ça me permet aussi de repousser les limites des jeunes parce que ils connaissent pas l'aliment. Moi, j'ai vécu, je connais pas tout. Mais je le garde quand même sûr pour les jeunes. Et puis d'avoir des jeunes avec moi qui est motivé d'y aller au-delà qu'ils connaissent, c'est des deux outils très très importants que je peux partager ma passion comme explorateur avec eux.
Parmi ces jeunes, vous pensez que des jeunes pourraient devenir des futurs Maikon? Est-ce qu'il y en a parmi eux?
Ah oui, il y a certainement 2 ou 3, mais les jeunes, aujourd'hui, on a beaucoup de connaissances, mais on a très peu d'expérience. Les jeunes, aujourd'hui, ils retrouvent tout sur Internet, et puis ils connaissent mieux que moi, aujourd'hui, des problèmes politiques, économiques, n'importe quel sujet. Ils connaissent mieux que moi, mais ils manquent l'expérience de la vie. Et cette expérience de la vie, tu peux pas le trouver dans un écran. Tu dois le faire sur les terrains. Et puis c'est ça que moi, comme Maikon, peux ajouter. Je peux l'amener où eux, ils connaissent l'aliment, mais où il n'y a pas d'expérience dans l'aliment. Et puis indirectement, c'est un super mariage. Parce que peut-être on va avoir des jeunes qui peuvent traverser l'Amazon plus vite que moi. Mais quand même, il y a 20 ans, je faisais ça pour la première fois. Et puis, c'était avec rien. Et qu'avec cette passion qui m'a mené au bout d'un rêve que j'ai eu comme enfant.
Vous, quel a été votre modèle d'aventurier? Parce qu'on a souvent un modèle, on a souvent quelqu'un qu'on essaye d'imiter. Qui vous a donné le goût de l'aventure?
J'aimais lire. Et puis, quand on lit les bouquins des aventuriers qui partaient, qui quittaient la France ou qui quittaient Portugal ou Espagne avec leurs bateaux ou des Norvégiens et tout ça, pour moi, j'ai trouvé dans chaque petit exploit, je trouvais un héros, quelqu'un qui était là que je disais, oh, si seulement je pouvais être comme lui. Mais je pense que d'avoir un type comme Edmondson, Nansen, Shackleton, Scott, des gens qui partaient dans l'inconnu, et puis à ces moments-là, des gens comme Captain Cook qui était là pour, en fait, dessiner nos terres comme il est aujourd'hui. Aujourd'hui, on retrouve pas ça. Tout le terrain et toute la terre est découverte. Mais on retrouve la sensation de découvrir l'homme. Et puis ça, c'est l'exploration aujourd'hui. Qu'avant, c'était physiquement, en fait, Groenland, ou c'était les îles des Maldives, ou c'était Indonésie, Australie qu'on découvert. Aujourd'hui, c'est complètement différent. C'est l'homme. Et l'homme a aucun arrêt. Ça veut dire qu'on connaît jamais vraiment l'homme. Partout où tu vas, il y a quelque chose de différent dans l'homme que tu trouves. Et puis, si c'est même que la nourriture ou la langue, de voyager, c'est d'avoir une expérience. Et l'expérience, ça te donne la vie. Et si t'as pas d'expérience, t'as pas eu une vie.
On va parler un petit peu du Mike Horn en dehors de ses aventures. Première question, Mike Horn, si vous n'aviez pas été aventurier, est-ce que vous auriez été attiré par un autre métier, une autre profession, un autre parcours? Est-ce que vous étiez depuis tout petit dédié à l'aventure ou non?
Moi, je me vois pas...
Être dans un bureau.
impossible, parce que quand on est né aventurier, on peut pas devenir un aventurier. À 8 ans, quand j'ai reçu mon premier vélo... Comme cadeau, je disais à mon père que je vais aller montrer mon vélo à mes cousins. Et puis, il pensait que je vais le montrer à mes cousins qui habitaient à 10 kilomètres. Mais non, c'était mon cousin qui habitait à 300 kilomètres. Et à 8 ans, je pense qu'on pense complètement différent qu'un autre gamin de 8 ans. On va dire à notre père à 8 ans, normalement, « Papa, est-ce que tu peux amener mon vélo dans ta voiture qu'on peut aller montrer ça à mes cousins ?» Mais non, je voulais faire avec mon vélo 300 kilomètres parce que ça, c'était la liberté. C'était inutile d'y aller au-delà que je pouvais faire à pied. Et puis, c'est ça que tu retrouves comme jeunes enfants. Ma mère était super parce qu'elle écrivait toutes les questions que nous, on a demandé quand on grandissait comme enfants. Elle a un bouquin avec toutes les questions qu'on a demandé. Et puis, toutes mes questions étaient pourquoi il y a des nuages? Et j'ai une ombre avec moi. Je vais être seul. J'aime pas ces machins qui me tournent autour. Pourquoi elle est là? Indirectement, c'est sûr que quand t'as déjà un intérêt qui est des nuages, qui est des arbres, qui est des rivières, je le demandais pourquoi il y avait de l'eau? Pourquoi ça coule? Et puis, pourquoi je pouvais pas la garder de mes mains? Pourquoi ça sèche? Toutes ces questions, comme enfant, étaient relatives à ce que je fais aujourd'hui. Sans vraiment vouloir. Et puis, indirectement, la vie d'un jeune, c'est quelque chose qui est quand même, c'est un talent qu'on a. Et puis, ces talents, on doit presque nourrir. On ne doit pas le mettre sur un plateau en disant, non, il ne faut pas faire ça parce que tu ne peux pas gagner de l'argent avec ça. Aujourd'hui, c'est plutôt, vas-y, t'as un talent, si c'est l'économie, ou si c'est l'art, ou si c'est la musique, il faut développer ça. Et puis, moi, je pense pas que je pouvais être quelque chose d'autre qu'un aventurier.
Qu'est-ce qui vous intéresse quand même, quand vous avez du temps, quand vous êtes en dehors de vos aventures, qu'est-ce que vous aimez faire? Vous aimez pratiquer peut-être aller d'autres sports plus traditionnels, la musique, par exemple, l'art, vous...
J'aime bien tout ce qui se passe dans notre vie comme sport ou c'est sûr que aujourd'hui, je travaille aussi avec pas mal d'équipes internationales comme coach, comme entraîneur. Spécialement où des gens jouent à un très 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 haut niveau dans les coupes du monde, j'ai l'opportunité aussi de partager mes expériences avec eux et ma passion d'arriver au bout. Ça m'intéresse énormément. Le sport, c'est toujours quelque chose qui m'intéresse. Après, une sœur qui fait l'art, c'est sûr que si t'as une sœur qui partage avec toi la passion pour nettoyer des tableaux de Picasso et tout ça, tu dis oui, tu retrouves quelque chose aussi là-dedans. La musique, j'ai pas mal de copains aujourd'hui autour de la planète qui est des musiciens et puis qui jouent. Quand ils m'ont envie d'y aller écouter leur musique, aussi un concert où c'est quelque chose un peu plus classique, j'aimerais bien aller parce que tu retrouves dans chaque petit aliment un inconnu. Et puis cet inconnu, tu vas rester presque sans savoir si tu vas pas. Et puis pour moi, c'est d'aller regarder, d'écouter et d'apprendre. Si un jour passe dans ta vie et tu apprends rien, je considère ça comme un perte d'une journée.
Mike, quand on revient comme ça de l'aventure de l'Amazonie, de l'Himalaya et qu'on se retrouve tout d'un coup à Lausanne ou chez vous à Châteaudet, est-ce qu'on n'est pas complètement déconnecté du monde? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'être un extraterrestre, quelqu'un? C'est un peu l'Indien dans la ville, si vous me permettez, si vous avez vu le film. Et est-ce que vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fais là? On vous imagine pas en train de faire vos courses à la Migros ou à la COP comme tout le monde. C'est quel regard par rapport à ces choses finalement assez banales?
Quand je rentre normalement, je retrouve mes repères très très vite parce que il y a des choses qui se passent, qui changent, mais il y a très très peu de choses qui changent vraiment visuellement. Peut-être qu'il y a plus de voitures en fait sur la route ou l'aéroport, il est toujours où il est. Et puis quand tu arrives à l'aéroport qui est connu, t'as un repère. Tu vas sur l'autoroute, l'autoroute est toujours là où il est. Et puis t'as un repère. Après tu passes et puis les ponts, ils sont toujours là. Il y a juste plus et plus de bâtiments en fait, mais ça c'est même pas, ça rentre même pas dans la vision.
Mais vous arrivez à vivre comme un, j'allais dire un homme normal.
Moi,
je parlais de faire ses courses et comme ça les
je
tâches.
Je pense pas, non, c'est impossible.
Les tâches, on va dire ménagères, les tâches que tout le monde a finalement, peut-être passer l'aspirateur chez vous, enfin des choses comme ça. Ça, c'est des réflexes que vous avez.
Ces réflexes, j'ai toujours sur le bateau. Et puis, c'est ma maison qui bouge. Et puis, je vois pas rentrer en Suisse comme rentrer à la maison aujourd'hui. Quand je retourne sur mon bateau, c'est je rentre à la maison. Et puis, ma maison, c'est quelque chose qu'on peut mettre la voile, qu'on peut traverser l'Atlantique, qu'on peut traverser la Pacifique, qu'on peut remonter de l'Amazon. Mais pour moi, je pense que quand je rentre et je vois en fait les gens autour de moi et puis disent « Mais Mike, t'as loupé ça, t'as loupé ça, t'as loupé ça, t'as loupé ça. » À la fin, tu sais même pas que peut-être y avait la guerre. Tu sais même pas qui était élu comme président. Mais ça change strictement zéro à ma vie comme explorateur. Tu vois en fait qu'on donne l'importance aux choses des fois qui est pas du tout important, qui est juste là pour être là. C'est juste un point de discussion. C'est juste ah oui ouais, il y avait des avions qui a rentré dans les tours en États-Unis. Et puis tu dis est-ce que ça a vraiment changé ma vie dans l'Arctique? Non, ça a pas changé. Ça a changé ma vie dans la civilisation, parce que maintenant, je peux plus voyager librement comme avant. Je dois passer des heures et des heures en passant la sécurité. Et puis, des fois, tu dis, mais est-ce que l'homme, peut-être, c'est lui qui complique sa propre vie? Et puis, c'est un point de discussion.
On pourrait penser que comme aventurier qui parcourait le monde, hein, les cinq continents, est-ce que de temps en temps, vous vous octroyez quelques jours de vacances?
Oh, vacances, c'est ma vie, plein de temps.
C'est ça, parce que c'est un métier, donc c'est un peu le paradoxe. Est-ce qu'à côté de ça, vous auriez besoin de vacances, d'aller dans un endroit pour rien faire, mettre les pieds sur une chaise longue? Ça, c'est quelque chose qui... Ça peut arriver à Mike Horn.
Je pense que ça peut arriver quand j'ai 99 ans, je pense. Mais aujourd'hui, il y a tellement de choses à faire. On n'a que 30 000 jours à vivre de une vie. Une vie à 30 000 jours. Aujourd'hui, j'ai peut-être encore 12 000 jours qui me restent, si tu vas bien. Quand tu regardes 12 000 jours, c'est pas beaucoup. Et puis, j'ai encore une liste de choses que j'aimerais bien faire dans ma vie qui est énorme.
Lesquelles?
Ouf, il y a tellement de choses. L'espace, et sous l'eau, l'Antarctique, de construire un autre bateau qui va amener plus de jeunes, de vie à travers la passion des jeunes aujourd'hui. Il y a tellement de choses qu'une vie de 30 000 jours est presque trop court. Et quand on n'a que 12 000 jours qui nous restent, mon pauvre ami, il faut y aller vite, parce que ça passe.
On revient peut-être, Mike, en juste quelques instants sur la famille. La famille, évidemment, qui est extrêmement importante. Lorsqu'on est aventurier, justement, et qu'on quitte régulièrement sa famille, chaque fois qu'on revient, est-ce qu'on est, finalement, par rapport à eux, un héros?
Ah, pas du tout. Non, moi, je suis juste un blaireau, peut-être, à la fin. C'est sûr que quand tu arrives de faire un cirque complet de ta vie où les jeunes sont nés, aujourd'hui ils sortent la maison, mais ils sortent pas vraiment, ils sont nouveaux avec toi. C'est là où je dis, mais écoute, Cathy qui a resté à la maison, elle a fait quand même un super boulot. Mes filles étaient bien éduquées. Et puis aujourd'hui, ils sont là avec moi en train de partager leur jeune vie avec une passion. Et puis d'être là pour eux aujourd'hui, je pense que c'est plus important aujourd'hui que quand un enfant à 6 mois, ou 8 mois, ou 2 ans, où il comprend pas encore tout, mais où on doit le donner une base dans la vie, une base qui est solide, qui peut toujours revenir dans la maison, un jeune qui part. S'il a une base solide, c'est ça qui est important. Et puis après, il faut donner des ailes aux enfants. Tu dois le donner la possibilité de partir, d'y aller, voler, d'avoir des expériences dans la vie. Comme j'ai reçu vers ma mère qui me donnait la liberté. Indirectement, si on brûle nos ailes, on peut toujours revenir dans une base qui est solide. Et je pense que la vie est fait un peu un équilibre. Si on trouve notre équilibre, c'est là où tu trouves tes enfants qui vont dans cet équilibre ou ta femme qui va dans cet équilibre. Tu peux pas changer un lion. C'est pas tout d'un coup un éléphant. Un éléphant, ça peut jamais devenir un girafe. Et puis, c'est ça la vie comme famille. On retrouve un équilibre dans la famille parce qu'on est comme ça. Si on doit changer ou forcer l'aliment de notre famille de rester soudé, ça va jamais aller. Pour moi, heureusement, ça a toujours été bien. Et puis, d'avoir une femme qui me donne la liberté, c'est peut-être parce qu'elle m'aime. Tu peux pas mettre un lion dans une cage. C'est pas un lion.
Vous arrivez à concevoir que l'on puisse être finalement marié à Mike Horn. Vous pourriez, vous, être marié à une aventurière?
Oh non, c'est exclu, hein, parce que ça, et tu vis quand même une vie seule, hein. Tu quittes la maison.
Vous n'avez jamais eu peur que votre femme se trouve quelqu'un de normal? Ça pourrait arriver. C'est quelque chose qui vous obstine, qui vous perturbe. C'est la confiance réciproque.
Peut-être si elle trouvera quelqu'un et puis elle est contente et heureuse, pour moi ça va me donner beaucoup de plaisir. Parce que moi j'aime bien des gens qui sont heureux, je veux des gens qui sont contents, c'est important. Et puis tu peux pas avoir quelqu'un qui est malheureux toute leur vie. Puis si un jour ça doit arriver, je peux pas le changer.
À mon avis ça sera déjà arrivé, je pense, Mike.
Ouais.
Le temps. Maintenant vous êtes tranquille, je pense.
Après 20 ans, c'est sûr que ça peut arriver, mais si ça arrive, c'est sûr que ça doit arriver. Et puis moi je peux pas changer des cours de notre vie.
Quelle vision vous avez de ce qu'est de la mort, la croyance et ces choses-là? C'est quelque chose qui est important?
Moi, je pense que c'est important pour chacun de nous de croire en quelque chose, parce que...
Vous avez peur de la mort?
Non, pas vraiment.
D'abord, de quoi est-ce que vous avez peur? Il aurait peut-être fallu commencer
par...
Les peurs de Mike Horn sont lesquelles?
J'ai souvent peur, et puis la peur me protège.
Vous avez peur de quoi?
Je dis plus l'inconnu, de faire une erreur que je voulais pas faire. J'ai plutôt peur de me décevoir comme homme. Et puis ça, c'est une peur que chacun de nous a à l'intérieur de nous. Parce qu'on veut faire des choses qui sont correctes, mais si tu fais des choses qui sont pas très correctes, j'ai peur de moi. Et puis à la fin, je crois en Dieu qui a créé la terre, et puis voilà, on doit croire en quelque chose, parce que la terre existe, il y a quelqu'un derrière ça. Et puis si on croit en Bouddha, ou on croit en Dieu, ou on croit en Mohamed, ou qui on veut... C'est égal, on doit croire en quelque chose, parce que l'homme existe pour une raison. À la fin, si tu vois en travers de la nature tout ce qui se passe, il y a quelqu'un qui gère ça aussi. C'est pas juste, ah oui, il y a un nuage, ou il y a du vent, ou il y a une tempête. Il y a quelqu'un qui est derrière ça. C'est pour ça, je pense que je crois. Mais Mike Horn, il a peur, en fait, je pense la peur, c'est plutôt la manière de protéger. l'homme comme un aventurier. Si j'arrête d'avoir peur, je dois arrêter de faire mon métier comme aventurier.
La peur, vous l'avez peut-être connue, on n'en a pas parlé, mais c'est important. Lorsque vous aviez 18 ans, vous avez été engagé, on remonte là aussi un petit peu dans le temps, avec les commandos en Afrique du Sud. Là, vous avez été directement sur le champ de bataille, on peut le dire, hein, ouais. Pendant 2 ans. Là, vous avez peut-être eu l'occasion d'avoir beaucoup plus peur.
Quand on a 17, 18 ans, et puis tu dis, mais écoute, j'ai ma vie devant moi. Et puis, tu vois clairement la différence entre la vie et la mort. Tu veux pas mourir, t'as peur. Parce que tu viens de commencer ta vie, t'as que 18 ans. Quand j'ai passé par la process de sélection, où ils sélectionnent 4000 jeunes hommes en Afrique du Sud, et puis 4 mois plus tard, il y a que 400, et 4 mois plus tard, il y a que 40, et 4 mois plus tard, il y a que 4 qui restent. Tu sais, quand tu es handicapé, tu as une bonne chance de partir, mais pas de rentrer. Et puis, ça me faisait pas trop peur à 18 ans. Mais dès que j'ai arrivé dans l'aliment où je voyais la réalité des choses, parce que tout est fiction, en fait, jusqu'à ce que tu partes pour aller faire la guerre.
Et là, vous êtes parti en Angola. Hein,
là, j'ai parti en Angola. Et puis, tout d'un coup, tu vois les autres qui est autour de toi qui est plus là. Ça, c'est la réalité.
Ça vous a beaucoup endurci, Maïkan. On dit que c'est parti du reste de là, qu'avec ce que vous avez certainement fait, ce que vous avez dû voir, évidemment qu'après, on se dit, tous les jours qui viennent, vous avez parlé de 30 000 jours, ouais, c'est un bonus, c'est ça.
C'est un bonus, oui. Indirectement, la vie est un bonus. Tous les jours, c'est un bonus. Je connaissais la différence entre la vie et mort à 18 ans. Et puis, je voulais jamais être mort. Ça veut dire que la peur, ça te protège. Et puis la protection, c'est important. Parce que je dis l'homme est l'homme. Tu peux grimper les montagnes, tu peux y aller au pôle Nord, tu peux traverser la jungle. Mais chacun de nous a notre défi tous les jours de notre vie.
Mike Horn, on arrive au terme de cet entretien. On aurait pu, inutile de le préciser, parler des heures avec vous, hein, parce qu'évidemment que les aventures, les détails, les anecdotes sont nombreuses. On va terminer avec un questionnaire de Proust revu et corrigé, avec quelques réponses assez courtes. Hein. Quel est le principal trait de votre caractère, Mike Horn?
La patience aujourd'hui, je pense qu'il faut l'avoir.
Votre principal défaut?
Je pense le défaut, c'est peut-être je fais trop de confiance aux gens. Et là, je suis souvent déçu. Ça, c'est un défaut.
À part vous, vous auriez voulu être qui?
Ah, peut-être mon père, parce que lui, c'était un héros pour moi. C'était quelqu'un qui était vraiment important dans ma vie. D'être lui, c'est un honneur.
Vous avez une baguette magique maintenant que je vous donne. Qu'est-ce que vous en faites, là, tout de suite?
Je travaille pour l'environnement, je travaille pour la bien-être de la Terre. Et je changerai, pas la Terre, mais je changerai l'idée des gens.
Le matin, quand vous vous levez, vous avez une devise, quelque chose que tous les jours vous répétez comme ça, une phrase un peu qui vous booste.
C'est « calme-toi, Mike », parce que c'est sûr que, parce que des fois, je suis trop excité. Tous les jours, quand je me réveille, c'est un régal. Et puis, des fois, je dois dire, mais calme-toi, les gens ne vivent pas à la même rythme que toi.
Mike Horn, quel sera votre prochain défi?
Il y a tellement, et puis aujourd'hui, avec notre projet qui a tellement grandi, c'est sûr qu'il faut aussi avoir un projet qui est plus grand, qui grandit. C'est pas parce que la grandeur est importante, je pense que l'impact est important. Aujourd'hui, on a 10 millions de jeunes qui nous suivent. Et puis, on peut pas le laisser comme ça, suspendu dans l'air. On doit l'amener vers leur but. Et puis, aujourd'hui, j'ai besoin d'une plateforme qui est plus grande. C'est sûr que tu perds la personnalité aussi, la touche personnelle si tu grandis. Mais en même temps, je pense qu'avec les jeunes explorateurs qu'on a formés autour de notre planète, on a formé des petites bases, Mike Horn, qui est là aussi pour partager leur message avec les autres. Et puis, peut-être de construire un autre bateau qui peut amener plus de jeunes, mais pas seulement de jeunes. Moi, je vais amener des adultes aussi. Des adultes qui est là, qui veut faire activement quelque chose pour notre planète. Je sais qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui. C'est pas une science qu'on fait. C'est de faire quelque chose qui peut changer la Terre. Il y a très peu d'actions aujourd'hui. On sait qu'on a un problème. Pourquoi il n'y a pas plus d'actions? Moi, je veux juste avoir une plateforme de donner la possibilité aux gens qui veulent faire une action de partager.
Mike Horn, merci.
Mais merci à vous.
Voilà, merci d'avoir écouté Direct News, hein, le podcast by Michel Robadin. Si vous avez apprécié cet épisode, ce que l'on espère, eh bien, pensez à mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Abonnez-vous à notre flux pour ne manquer aucun des prochains épisodes pour suivre mes entretiens avec différentes personnalités. Retrouvez-nous sur notre site direct-news.info et nos différents médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Direct News, MR en majuscule.